Chloé Lebrun, vous êtes sociologue et vous avez soutenu une thèse en 2022 qui s'intitule « Lutte et revendications individuelles et collectives de vigneronnes et contestations des rapports de genre en viticulture ».
L'idée de ce travail, finalement, c'était de partir d'un constat. Alors en fait, ça faisait depuis quelques années qu'on travaillait dans mon équipe sur les questions de genre appliquées à l'agriculture. Notamment, on avait réalisé un travail en amont de cette thèse de doctorat sur la question de l'implication des agricultrices dans les activités de diversification. Ça faisait depuis une dizaine d'années qu'on montrait en France que les femmes étaient particulièrement impliquées dans le processus de diversification des fermes. Donc l'accueil à la ferme, la commercialisation, la transformation des produits, l'organisation collective, les initiatives collectives aussi sur les territoires. Et c'était en 2017. On avait essayé de creuser à cette époque-là la question de l'implication des agricultrices dans les circuits courts de commercialisation en zone périurbaine de Toulouse, puisque moi je suis basée donc à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse. Finalement, cette thèse de doctorat découlait un peu de façon logique de ces travaux-là. On s'est intéressé à la viticulture, on essayait de construire des hypothèses de recherche et on se disait que finalement la viticulture pouvait constituer une orientation productive un peu particulière au regard de ces résultats-là, en ce que finalement les vins sont vinifiés, sont souvent aussi commercialisés sur place, en vente directe à la ferme, en tout cas sur les domaines, que finalement les vignerons et les vigneronnes, ou les viticulteurs et les viticultrices, cultivent la vigne et puis après s'occupent de toutes les activités jusqu'à la commercialisation. Et donc on se disait peut-être que cette orientation productive-là, en tout cas cette orientation agricole, elle pouvait revêtir certains aspects intéressants, si ce n'est spécifiques, au regard des rapports de genre qu'on observait à ce moment-là en agriculture. Et du coup, comme vous l'avez mentionné dans le titre, j'ai travaillé à deux échelles, à une échelle plus individuelle, donc à l'échelle des exploitations, des fermes et des domaines viticoles, et puis une échelle un peu plus macro, en tout cas un peu plus collective, où j'essayais de questionner la représentation des agricultrices, des vigneronnes plutôt, puisqu'elles se définissent plutôt comme étant des vigneronnes sur le terrain sur lequel j'étais. La représentation des vigneronnes dans les organisations professionnelles viticoles, les syndicats d'appellation, les interprofessions. Et finalement, en miroir de ça, j'essayais de questionner aussi la dynamique collective qui émerge, alors qui n'est pas nouvelle en agriculture, cette question de la non-mixité choisie. Il y a de plus en plus de collectifs de vigneronnes qui se créent en non-mixité. Et j'essayais de lire cette dynamique-là, même si encore une fois, elle n'est pas nouvelle et que la non-mixité en agriculture, ce n'est pas nouveau. J'essayais de lire un peu cette dynamique-là au prisme de la non-représentation des femmes dans les organisations professionnelles à l'échelle collective des filières viticoles et de la profession. Et du coup, finalement, tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective, j'ai essayé d'appliquer le prisme du genre à la viticulture. Donc comment se traduit, en fait, c'est d'essayer de comprendre comment certaines inégalités de genre qui sont historiquement construites en agriculture se reproduisent encore aujourd'hui, à la fois dans l'accès au métier, dans l'exercice du métier, et donc sur les exploitations, et à la fois dans les organisations collectives. Et j'essaie de montrer quelles inégalités se reproduisaient, quelles inégalités de genre se reproduisaient dans ce milieu-là. L'idée, c'est pas de dire c'est pire, c'est pire, mais en tout cas de façon spécifique à ce milieu social et ce groupe social qui est le milieu de la viticulture. Et moi, j'ai beaucoup travaillé en Occitanie, j'ai bossé sur des vignobles à la fois Languedoc-Roussillon et Sud-Ouest, donc un peu dans le Sud-Ouest proche de Toulouse et puis dans le Sud-Ouest plus du côté du Gers. Et j'ai essayé surtout de... En tout cas, je me suis beaucoup focalisée sur les trajectoires d'entrée dans le métier. J'ai essayé de comprendre quels étaient les différents... type d'entrée dans le métier, disons, ou en tout cas de voir comment en fait les façons d'accéder à ce métier-là se renouvelaient pour celles qui finalement reprennent les domaines familiaux et s'inscrivent dans des formes de transmission. Comment elles venaient à remettre en question les normes de genre qui ont souvent privilégié une primauté masculine dans les transmissions et comment elles y arrivaient et elles remettaient en question les systèmes et elles apportaient du changement et du renouvellement. Et à la fois pour celles qui s'installent complètement, entre guillemets, hors du cadre familial, qui ne sont pas forcément issues du milieu agricole, ou en tout cas qui ne s'installent pas sur des domaines qui appartiennent à leur famille, et puis comment elles aussi via leur parcours diversifié, leur trajectoire, elles accèdent au métier. Et enfin, une troisième façon d'entrer dans le métier que moi, j'ai mis en évidence, c'était cette catégorie un peu des femmes qui, en fait, s'installent après une première carrière professionnelle, souvent épanouie, mais aussi souvent très précaire, s'installent sur les domaines de leur conjoint, ou souvent sur les domaines familiaux de leur conjoint, ou même sur les domaines hors cadre familial de leur conjoint. Et j'ai essayé, dans le cadre un peu de ces trois trajectoires-là, d'essayer de comprendre comment les femmes, elles remettaient en question les normes historiques de genre en agriculture, comment elles renégociaient la division sexuée des tâches historiquement et socialement construites en agriculture, comment elles négociaient dans l'espace du domaine pour essayer d'asseoir une légitimité professionnelle. Et comment elle pouvait aussi être amenée à remettre en question le partage des tâches domestiques qui sont en agriculture, qui revêt une réalité spécifique dans un milieu agricole où il a été très longtemps difficile de séparer les espaces domestiques des espaces du foyer, des espaces de la ferme, où tout ça constituait la ferme dans une grande unité. Et j'ai une deuxième partie de mon travail, ça constituait à questionner, comme je le disais, cette dynamique de non-mixité en viticulture ou dans le monde viticole. J'ai étudié à l'échelle collective trois groupes non mixtes qui ont été créés, alors pas forcément par les vignerons. Et j'essaie de comprendre comment ces trois groupes non mixtes, finalement, émergeaient dans des conditions particulières, comment ils s'inscrivaient sur leur territoire, comment ils avaient été perçus et reçus au moment de leur émergence, qui en faisait partie, quels étaient un peu le profil des vignerons qui en étaient membres, quelles revendications ces groupes portaient. D'un point de vue féministe ou pas. Et j'ai essayé de montrer finalement que, en fait, en fonction des profils, en fonction des modes de viticulture, en fonction des pratiques, en fonction du territoire sur lequel ils s'inscrivent, ils portent en eux des réalités qui sont variées, même si globalement, quand même, on retrouve des éléments de résultats qui sont mis en évidence pour la non-mixité d'une manière générale, à savoir que ces espaces se constituent des lieux d'échange, de solidarité, d'échange de pratiques, d'échange de coups de main, de savoir-faire. Des espaces aussi où il est possible de conscientiser finalement les inégalités de genre qui sont à l'œuvre au sein du monde viticole. Et au-delà de ça, ces espaces, ils sont dans certains cas, et pas forcément dans d'autres, des espaces de revendication féministes, ou en tout cas des voix féministes sont portées collectivement. Et alors, une des grandes questions transverses, que ce soit à l'échelle individuelle ou que ce soit à l'échelle collective de mon travail de doctorat, c'était de questionner un peu ce rapport au féminisme qu'il y avait au sein du monde agricole. Et je me suis rendu compte que certaines, au sein de ces collectifs non mixtes, portaient des questions féministes de façon assez forte et que dans certains cas, ces questions, elles s'exportaient un peu sur la scène publique ou en tout cas sur la scène agricole, alors que dans d'autres cas, pas du tout. Voire même certains collectifs en non-mixité en viticulture se revendiquaient ouvertement non-féministes. Donc je me suis un peu questionnée sur ces appropriations, à la fois ordinaires et puis collectives de ces idées féministes au sein du monde viticole. Je ne sais pas si j'essaye à résumer, mais...
Ouais, et quel type de conclusion pouvez-vous tirer donc de cette revendication ou non du féminisme ?
Alors en fait, c'est un peu délicat parce que je suis tombée sur certains collectifs non mixtes qui étaient très critiqués du point de vue de leur utilisation de certains codes stéréotypés. Des femmes qui vont s'habiller en rose, qui vont choisir des logos ou des noms de groupes qui sont assez stéréotypés, qui mobilisent souvent certains codes avec des éléments socialement associés au féminin et des choses comme ça. Et donc finalement, on se rend compte que certains de ces collectifs sont beaucoup critiqués, ou en tout cas sont beaucoup décriés, notamment par certaines vigneronnes qui se revendiquent féministes et qui, pour ces raisons-là, ne veulent pas forcément s'y impliquer. Et en fait, ces collectifs-là, souvent, globalement, quand même, ils émergent, en tout cas en viticulture, avec l'idée de vendre du vin. De vendre du vin, de commercialiser, de mutualiser la commercialisation dans des salons de vignerons et de vignerons indépendantes ou alors dans des salons commerciaux. Et d'ailleurs, il y a même certains collectifs qui sont créés à l'origine par les offices de tourisme, les comités départementaux de tourisme, etc. Effectivement, il y a quelque chose qui se joue là avec... le fait que ces collectifs doivent associer vente de vin, promotion des vignobles et des appellations, et en même temps la question de la non-mixité choisie, quoi. Après, globalement, même dans ces collectifs qui se constituaient en GI2E, donc qui étaient des structures assez commerciales, on retrouvait quand même je dirais presque en privé en fait, à l'échelle des territoires, on retrouvait des combats quand même conduits par ces femmes-là. Et finalement, des collectifs non mixtes qui en public, face à des personnes au sein des salons, vont effectivement reproduire certaines normes de genre, en tout cas certaines normes stéréotypées. Finalement, on se rend compte que quand elles sont sur leur territoire, en privé entre guillemets, pas forcément aux yeux du grand public, mais finalement toutes habillées en rose au premier rang de la salle à l'Assemblée générale de l'appellation, quand même, elles portent aussi des revendications et que ces vigneronnes-là, elles sont victimes de violences sexuelles, de harcèlement, de la part de certains hommes qui sont membres de ces conseils d'administration, de ces syndicats d'appellation, etc. Donc globalement, vous voyez, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est un statut qui est un peu ambivalent par rapport à ces questions-là. En tout cas, ce qui est intéressant à noter, c'est que la question du rapport aux idées féministes, elle traverse quand même ces collectifs et c'est un sujet, quoi. Et c'est un sujet qui, tantôt, est public et ouvert, et parfois, il est très prisé et il se fait à l'échelle des discussions en interne du collectif qui essaye de naviguer aussi et trouver des idées qui les rapprochent.
Pour résumer, peut-être on pourrait dire que chez certaines femmes vigneronnes, même s'il n'y a pas des codes du militantisme féministe, ouais, dans les faits, ouais, il y a des pratiques et des idées qui finalement le sont.
Oui, en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire que en fait, de tout temps, la question des luttes féministes et la question agricole, finalement, peut être questionnée. En tout cas, on peut s'interroger sur les agricultrices qui ont finalement peu été impliquées au sein des luttes féministes. Et puis en retour, les mouvements féministes qui ont peu considéré ce qui était important et ce qui faisait sens pour les agricultrices et qui les a peu intégrées à cette lutte-là, qui était surtout finalement des luttes qui ont émergé dans les espaces urbains. Et finalement, on retrouve un peu ça aujourd'hui, c'est-à-dire que l'idée, c'est de montrer que peut-être que derrière ces déclarations de « je ne suis pas féministe, mais » en fait, il y a des appropriations ordinaires et il y a des pratiques contestatrices qui sont mises en place dans les quotidiens des femmes et dans leurs espaces ordinaires, entre guillemets, quoi. Et ça se passe aussi à l'échelle des territoires, des vignobles et des appellations.